France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Nous devons tous être conscients que cette guerre nous touche. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre? Pouvons-nous nous détourner, considérer que les choses peuvent continuer à se jouer? Je ne crois pas. Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucides sur la réalité de la situation qui se joue en Europe, les risques qui sont à l'œuvre et ce que nous devons assumer.
Il persiste et il signe. Il n'y a aucune limite au soutien que la France peut apporter à l'Ukraine, ni de ligne rouge. Emmanuel Macron est resté droit dans ses bruits de bottes jeudi. C'est en tout cas ce qu'ont rapporté les responsables des formations politiques que le président français avait conviés à l'Élysée. Eu égard aux inquiétudes exprimées par l'opposition au sortir de ces entretiens, le débat parlementaire cette semaine autour de l'accord bilatéral de sécurité entre Paris et Kiev promet d'être agité. Mais l'agitation, ça ne fait pas peur à Emmanuel Macron. On pourrait même dire que c'est sa marque de fabrique en matière de politique étrangère. Le président français n'aime rien tant que secouer le cocotier de la diplomatie, avec plus ou moins de succès. Au rayon coup d'épée dans l'eau, sa proposition de monter une coalition anti-Hamas sur le modèle de celle contre Daesh. Proposition aussitôt retoquée par les alliés de la France. Pas content non plus d'ailleurs les alliés lorsqu'Emmanuel Macron avait suggéré de ne pas faire preuve de suivisme envers les États-Unis à propos de Taïwan. Mais la disruption macronienne a aussi quelques succès à son actif. Discours flamboyant en 2017 sur la souveraineté stratégique européenne. Coup de semonce à propos de l'OTAN. Comme le rappelle la journaliste Marion Van Rettergem dans l'Express, son constat à l'époque d'une organisation en état de mort cérébrale avait d'abord vexé les États membres avant de jouer son rôle dans le réveil inattendu de l'Alliance. Et donc désormais, l'Ukraine. Rien ne doit être exclu, y compris l'envoi de troupes au sol. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche, a encore dit Emmanuel Macron, de quoi agacer nos partenaires, au premier rang desquels l'Allemagne. François Hollande, qui ne perd jamais une occasion de tacler son successeur, a eu cette phrase mercredi soir, après avoir lui aussi été reçu à l'Élysée. « Ma position, a-t-il dit, sur les questions militaires, c'est moins on en dit, mieux on agit, ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. » Tout le contraire, a priori, de la diplomatie d'Emmanuel Macron. Thomas Gomard, vous êtes plutôt Emmanuel Macron, vous êtes plutôt François Hollande par rapport à ce que je viens de dénoncer.
Ni l'un ni l'autre, Hervé Gardette, au risque de vous décevoir. Non, écoutez, l'analyse que je fais de cette séquence est en ligne avec la première partie de notre émission, en réalité. C'est-à-dire que il y a, à mon avis, deux aspects. Il y a un aspect qui est la préparation des élections européennes et la volonté probablement du président Macron de créer du clivage dans la perspective de ces élections européennes, avec un effet peut-être assez paradoxal, c'est qu'il y avait un niveau de soutien élevé de l'opinion à la cause ukrainienne. Il n'y a pas un soutien de l'opinion à la perspective d'un engagement militaire. Bon.
Il y a eu un sondage, je crois qu'on est au un peu plus de deux tiers des personnes interrogées, en tout cas, qui sont hostiles à cette...
Mais on voit bien la logique qui est une logique obligeant ses adversaires politiques à sortir du bois et d'une ambiguïté dans le rapport à la Russie. Je vais y revenir. Et puis, un deuxième aspect sur lequel je pense que le président de la République a raison, c'est de souligner l'extrême gravité de la situation, en fait. Et de le faire en essayant de faire comprendre, à mon avis, à l'opinion et aux partenaires européens qui ne seraient pas encore convaincus, mais à mon avis, l'ensemble l'est désormais, que ce qui se joue en Ukraine, c'est la sécurité européenne dans une perspective d'une génération, en fait. Bon. Alors, ça renvoie, à mon avis, à peut-être deux observations plus fondamentales. La première, c'est un retour à 2017. Cette idée d'un consensus sur la politique étrangère française, à mon avis, disparaît dès l'élection présidentielle de 2017, précisément sur la Russie, puisque sur les quatre principaux candidats à l'époque, on en a trois qui ont propos assez favorables à la Russie. Mmh. François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. En 2017, après 2014... C'est-à-dire après l'annexion de la Crimée, la déstabilisation du Donbass, c'est-à-dire que ça traduit à mon sens quand même l'erreur fondamentale d'analyse commise par la classe politique française sur la trajectoire prise par la Russie de Vladimir Poutine après Bolotnaya, après 2012, et le fait que d'une certaine manière, dans son premier mandat, Emmanuel Macron s'est rallié à cette position avec Brégançon, l'idée qu'on allait ramener Vladimir Poutine à la raison et qu'il allait modifier son comportement. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est important de rappeler cette évolution. La deuxième observation plus générale, c'est que ça renvoie cette question du consensus en politique étrangère à ce débat que je trouve en fait très mal posé entre qui était le débat de 2017 entre les néoconservateurs appartenant à une vision assez occidentale et puis une vision gaullo-mitterrandienne. Pour ma part, je n'ai jamais trouvé ce terme pertinent. J'ai toujours trouvé très flatteur pour François Mitterrand par rapport à l'héritage de Gérald de Gaulle, soit dit en passant, mais peu importe. Mais il s'est inscrit, Emmanuel Macron s'est inscrit dans ce sillage-là. Et à mon avis, c'est un sillage qui nous empêche de penser. Parce que ça fait du gaullisme une sorte de fétiche et on a une sorte de lecture partielle et partielle du gaullisme en fonction de ce que l'on veut obtenir comme résultat politique. Et puis ça fait comme si la politique étrangère française commençait en 1958 en fait, alors qu'elle a peut-être un peu plus d'antériorité.
Donc ça veut dire, Thomas Gomard, que vous trouvez ça plutôt sain qu'aujourd'hui on revoit de fortes divergences sur la politique étrangère de la France, parce que c'est vrai que depuis 2022 on avait quand même l'impression que si ces divergences, elles existaient encore, mais elles s'étaient atténuées, ou en tout cas on les entendait moins de la part de ceux qui avaient pendant un temps plutôt soutenu Vladimir Poutine.
Je trouve ça très sain qu'il y ait du débat sur la politique étrangère, mais je pense que ce débat va, à mon avis, se figer sur, à mon avis, les trois vrais clivages que je vois. C'est pas donc néoconservateur, gaullo-mitterrandiste, etc. Non, il y a trois débats. Il y a le premier débat qui est effectivement posé par le président de la République dans son discours de la Sorbonne de 2017. C'est est-ce qu'il y a une Europe puissance au sens est-ce qu'il y a une Europe qui peut être acteur stratégique? Et c'est pas si simple du tout comme question. Deuxième grand clivage, c'est le clivage tout simplement entre paix et guerre. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'une politique étrangère est là pour construire un état de paix ou est-ce qu'elle est là pour préparer une possible guerre? Et c'est ça le moment dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que j'insistais sur la gravité, c'est-à-dire que ça nous renvoie à quelque chose que nous avions oublié collectivement, c'est que les questions militaires, c'est pas que pour les autres. Et ça, c'est très déstabilisant pour la manière dont on a lu le monde depuis 1991. Et puis, je crois qu'il y a un troisième clivage qui fait le lien avec la première partie de notre discussion. C'est est-ce qu'il y a une singularité française, en fait, dans le monde? Alors, la classe politique va répondre spontanément, évidemment. Et d'ailleurs, notre discussion de la première partie allait dans ce sens. Mais c'est pas si évident que ça. Quand vous êtes un pays qui, peut-être que les milieux économiques répondront très différemment à ça. Quand vous êtes un pays qui aujourd'hui est dans l'état qu'il est sur le plan économique, qui a 3000 milliards de dettes publiques, qui a 100 milliards de déficit commercial et qui effectivement fait un peu la leçon à tout le monde.
Bertrand Badie.
Oui, moi je pense qu'il faut, dans cette affaire qui est intéressante, qui est importante, révélatrice, distinguer trois niveaux, la politique internationale, la politique étrangère et la diplomatie. Et je crois que ces trois niveaux ont été mélangés, peut-être par le président, mais certainement par les commentateurs et par tous ceux qui, en France et ailleurs, ont réagi. Je m'explique. La politique internationale, c'est un discours sur l'international. C'est donner sa vision de l'international. C'est donner sa mesure des risques, des dangers, des perspectives et tout ce qui s'ensuit. Nécessairement, et c'est ce qu'a fait le président de la République, notamment à l'issue de la conférence de Paris, où il a prononcé cette fameuse phrase, et ensuite, à répétition, comme vous dites, il a persisté et signé. Quand on fait de la politique internationale, nécessairement, on crée plein d'interférences. C'est-à-dire que on va mobiliser des considérations de politique intérieure, on va mobiliser également un système de valeurs qui n'est pas forcément consensuel. Et de toute façon, et ça, on n'a pas suffisamment mis la chose au crédit du président de la République, quand on fait de la politique internationale, on se contente, et c'est ce qu'il a fait, de dire « il n'est pas exclu d'eux ». Il n'y avait pas une annonce de décision ni même de processus amorcé. Mais ça crée cette confusion. Et on est dans cette confusion. Parce que derrière la politique internationale, la politique étrangère, c'est autre chose. La politique étrangère, c'est une politique publique. C'est-à-dire l'affirmation d'une cohérence par rapport à un certain nombre d'enjeux. Il faut définir ces enjeux, il faut définir cette cohérence et il faut surtout vérifier si nous avons la capacité d'eux. Est-ce que la France a la capacité de faire tout ce qu'elle annonce?
Et là, il n'y a pas de cohérence entre...
C'est un sujet rarement abordé par les hommes d'État en France. France depuis peut-être le général de Gaulle et François Mitterrand. Il y a cette façon de dire « Oh, moi j'aimerais, je pense que, etc. » Mais est-ce que nous en avons les moyens et quels moyens doit-on mobiliser ? Ça, ce débat, il est inaudible, on ne l'entend pas, ni dans la bouche du président, ni dans ceux qui le critiquent et le contestent. Et puis, il y a un troisième niveau, et c'est peut-être ça qui m'a le plus choqué, qui est celui de la diplomatie. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie ? C'est la prise en compte de l'altérité de l'autre pour savoir si les intentions que l'on a soi-même sont réalisables. Et ce qui est quand même sidérant, c'est l'idée d'envoyer des troupes au sol, alors que ce soit des troupes combattantes ou pas, etc., c'est pas une décision solitaire. Ça ne peut être qu'une décision délibérée avec les alliés ou les partenaires. Manifestement, cette discussion n'a pas eu lieu à voir l'ampleur de la réponse.
Ce que disait Emmanuel Macron, c'est on en discute, mais il n'y a pas de consensus.
Ben voilà, exactement. Bon.
C'est important quand même de dire
oui,
qu'on en discute.
Mais l'effet pervers de tout ça, et c'est sur quoi je voulais atterrir, l'effet pervers de tout ça, c'est que suite à cette déclaration, on a assisté à une formidable envolée de moineaux, tout le monde criant dans tous les sens, ce qui a conduit Vladimir Poutine à un double frottement de mains. D'abord, regardez comme l'Europe est divisée, ça, il n'y avait rien de tel pour le contenter, et c'est là que l'on est passé du politique au stratégique, c'est-à-dire, ben voilà, stratégiquement, il n'y a pas d'union de l'Europe, donc tout ce qu'il dit, c'est des propos de salon, en quelque sorte. Et puis, un deuxième effet pervers, je ne sais pas si le président en avait pris la mesure, c'est que Vladimir Poutine dit « Regardez, ça fait 2 ans que je vous le dis, le véritable ennemi, c'est pas l'Ukraine, c'est l'Occident. Regardez les Occidentaux qui commencent à vouloir se mettre en ordre de bataille. Je vous l'avais bien dit. » Donc, faire très attention. Quand on fait de la politique internationale, en ignorant la politique étrangère et la diplomatie, on risque de créer des effets pervers qui desservent votre diplomatie et votre politique étrangère.
Sauf qu'en mettant cette question sur la table, et on voit bien qu'il l'a fait à dessein, hein, puisqu'il l'assume totalement, Emmanuel Macron, il permet aussi que l'on discute de cette hypothèse d'un conflit ouvert avec la Russie. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est quelque chose qui paraissait totalement inimaginable autrefois, enfin jusqu'à il y a peu, et aujourd'hui on en discute.
Oui, mais quand vous ouvrez une discussion, il faut organiser la discussion, sinon elle vous retombe sur le pied.
Magali. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que fin février, quand c'est en répondant à une question qui a l'air de faire peut-être même quelque chose de très impréparé, peut-être même une gaffe, puisqu'en fait, il y aurait eu, dans la réunion précédente, un consensus plutôt pour ne pas envoyer de troupes. Et quand il va à Prague, là, il assume son propos pleinement. Et la question, c'est est-ce qu'on est dans l'incantation ou est-ce qu'on est dans une réalité stratégique ? Et je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'on est très très loin d'une économie de guerre avec un déficit structurel extrêmement important. Il faut voir aussi ce que ça représente en termes de cadence de travail, en termes de planification et de prise en main de l'appareil productif par l'État. Donc on est quand même très loin. Donc ce débat, en fait, on voit qu'il commence à se construire. Et on a vu que le propos d'Emmanuel Macron après Prague n'a pas du tout eu le même accueil que fin février. Les pays baltes, la République tchèque ne voient pas les choses de la même manière et on réalise en fait à quel point ce sujet autour de cette Russie poutinienne qui est extrêmement agressive et qui vraiment n'arrête pas de faire la guerre depuis le début. On voit qu'en fait, il faut nous expliquer nous, en France, en quoi cette guerre est une guerre qui nous concerne. Et c'est ça l'enjeu. Puisque dans les pays qui ont une frontière, les choses sont vues tout à fait différemment. Dans les pays qui ont été supprimés à un moment de leur histoire, les choses sont vues différemment. Mais en France, on a du mal à comprendre l'enjeu stratégique.
Et de ce point de vue, peut-être que, alors, justement, les interventions d'Emmanuel Macron
sont tout à fait intéressantes. Moi, je pense que c'est un débat salutaire. Il faut comprendre pourquoi nos intérêts. On sait très bien que nos intérêts en Afrique ont été extrêmement dégradés par l'intervention du groupe Wagner. On sait qu'il y a un enjeu sur le blé avec l'Ukraine si la Russie emporte la bataille sur l'Ukraine. On sait aussi qu'il y a un enjeu aussi sur le droit international, puisque c'est une remise en cause des frontières. On voit tout ça, et on a besoin de savoir aussi si les menaces qui ont été faites vis-à-vis de la personne du président Macron lors d'un voyage qu'il a dû annuler en Ukraine, ou toutes ces cyberattaques, cette intrusion dans nos élections, il faut qu'on arrive à comprendre où en est le degré de menace pour voir quel degré d'appropriation peut avoir l'opinion. Tout à l'heure, vous rappeliez que ou c'était Thomas Gomard qui le rappelait, que l'opinion publique est défavorable au propos d'Emmanuel Macron à 68%. Oui, mais l'opinion publique, elle a besoin d'explications et de pédagogie. Alors bien sûr, sur une guerre, on peut pas tout expliquer. L'ancien président Hollande a raison de dire qu'on peut pas donner sur la table tous les scénarios. Toutefois, il y a quand même deux, trois choses à clarifier. Le mot de troupe, tout de suite dans l'imaginaire. Ça renvoie à des choses qui est nos garçons au front, les familles à l'arrière et la conscription qui est de retour. Je crois que c'est pas du tout ça le projet. Le projet, manifestement, c'est d'envoyer des responsables militaires. Il y en aura déjà sur place, hein, Olashoff l'a dit. Donc c'est d'envoyer des responsables qui ont une compétence particulière et on n'est pas du tout dans le retour à la conscription. Et ça, je crois aussi qu'il faut l'expliquer. On a besoin de clarification et ce débat est intéressant.
Je reprends cette formule de François Hollande. Moins on en dit, mieux on agit. Est-ce que vous diriez la même chose ou Brice Couturier? Au contraire, plus on en dit, quand on mieux on agit.
Quand on est un président qui était incapable de se représenter tellement on était impopulaire, je pense qu'on devrait s'abstenir de ce genre de commentaires par rapport à celui qui lui a été capable de se faire non seulement élire, mais réélire. Mais enfin, moi je voudrais vous citer M. Sikorski, qui est le nouveau ministre polonais des Affaires étrangères dans le gouvernement Tusk, hein, pas le gouvernement PiS, hein, le gouvernement du centre-droit, pas le gouvernement populiste. Je cite « La présence de forces de l'OTAN en Ukraine n'est pas impensable ». J'apprécie l'initiative du président Macron parce qu'il s'agit de faire peur à Poutine et non pas que nous ayons peur de Poutine. Je souligne que les trois pays baltes, les ministres des Affaires étrangères des trois pays baltes ont fait des déclarations exactement dans le même sens, que la Tchéquie est également dans le bateau. Donc les commentateurs que j'ai entendus dire que Macron était irresponsable et qu'il avait dérapé feraient mieux de regarder un peu au-delà de Berlin pour essayer de comprendre ce qui se passe en Europe. L'Europe, ça se résume pas à l'Allemagne. C'est vrai qu'on a un problème avec les Allemands, c'est vrai qu'on a sur l'Ukraine des points de vue différents. Ça tient simplement à des choses qui sont très anciennes. Le fait que la France est une puissance nucléaire et que comme une puissance nucléaire, en tant que puissance nucléaire, elle a une stratégie de l'ambiguïté. Elle a toujours eu, à savoir que nous n'avons jamais défini, depuis que nous avons la bombe atomique, quels sont les fameux intérêts vitaux que nous défendrions, y compris par la guerre nucléaire. Les Allemands n'ont pas d'armes nucléaires, ils ne sont pas dans la même situation. Par ailleurs, nous, depuis Mitterrand, ça remonte aux années 80, nous essayons d'assurer la sécurité en Europe par nos propres moyens parce que nous craignons qu'un jour les Américains s'en aillent. Et là, nous avons Donald Trump qui risque fort de devenir président à la fin de cette année et qu'effectivement cette garantie américaine de sécurité sur l'Europe disparaisse. Donc l'idée d'assurer la sécurité de l'Europe par ses propres moyens que Macron défend après Mitterrand, après Chirac, après tous les autres, est dans une parfaite continuité. Je voyais cette citation de Joseph Joffe qui était l'ancien rédacteur en chef de Die Zeit, qui dit la chose suivante. « En tant que garant de dernier recours, les États-Unis sont le seul membre de l'OTAN à pouvoir souscrire un contrat d'assurance existentielle contre le mastodonte russe. » Voilà, nous ne pensons pas ça. Nous, les Français, pensons que l'Europe aurait les moyens financiers, en tous les cas humains et matériels, de résister à la Russie, qu'il faut aussi savoir qu'en ce moment, la progression des troupes russes dans le sud est extrêmement inquiétante parce qu'ils approchent d'Odessa et de Kherson. Si jamais la Russie arrivait à percer dans le sud de l'Ukraine, couper l'Ukraine de la mer Noire et faire la jonction avec la Moldavie, où les troupes russes sont déjà présentes en Transnistrie, la guerre en Europe éclaterait d'office. Donc nous ne pouvons pas tolérer une telle situation. Je remarque par ailleurs, j'entends des politiques et des responsables nous dire « nous ne voulons pas mourir pour le Donbass ». C'est terrible à quel point ça me rappelle les années 30 où on voyait Marcel Déat, le socialiste qui allait devenir fasciste et animer un mouvement de collaboration avec l'ennemi, nous dire en 1939, mourir pour Danzig. Hein, on nous faisait la même chose. La répétition du scénario des années 30 est tellement stupéfiante quand on voit les progressions systématiques de la Russie qui correspondent exactement avec toujours l'idée qu'on a été humilié par la dernière guerre froide ou la guerre de 14-18 et que donc il faut comprendre la volonté de revanche de ce peuple humilié. On nous a fait exactement la même chose avec Adolf Hitler que ce qu'on nous fait aujourd'hui avec Poutine. En tous les cas, ceux qui nous disent on ne veut pas mourir pour le Donbass, on leur demande pas d'aller mourir pour le Donbass, on leur demande simplement de faire preuve d'intelligence, de courage et de lucidité.
Et on sent bien d'ailleurs que cette référence historique, elle était sans doute aussi à l'esprit d'Emmanuel Macron quand il évoque le fait qu'il ne faudra pas être lâche le moment venu. C'est évidemment la acheter des accords de Munich.
Attendez, juste une chose. Oui. On nous dit, certains dirigeants politiques comme M. Bardella nous disent, le président refuse de mettre des lignes rouges. Est-ce que la Russie, elle, met des lignes rouges quand elle menace? C'était encore le cas hier soir. La télévision russe menace les capitales occidentales d'une frappe atomique. Est-ce qu'il y a... Vous comprenez, on laisse le contrôle de l'escalade à Poutine. C'est très dangereux. Il faut disputer à Poutine l'escalade et il ne faut pas lui laisser l'initiative. Sinon, nous allons effectivement vers la guerre. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et on évite la guerre. Comme l'a dit le chef de la CDU hier, Monsieur Merz, il a dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et il critiquait le Scholz et il faisait l'éloge de Macron. Donc, encore une fois, Macron est loin d'être isolé en Europe. La CDU est de son côté.
Et justement, est-ce qu'Emmanuel Macron a vocation à porter une forme de leadership face à Vladimir Poutine? On parle beaucoup dans cette émission, Thomas Gomard, de la perspective des élections américaines avec la possibilité pour Donald Trump de revenir au pouvoir. Est-ce que Emmanuel Macron peut assumer ce leadership-là? Et si ça n'est pas lui, qui pourrait le faire?
Ouais, je pense qu'il y a une part de l'explication qui tient effectivement à l'hypothèse de plus en plus crédible d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est aussi comme ça qu'il faut lire les prises de position récentes d'Emmanuel Macron, parce que, et c'est là qu'il va y avoir quelque chose, à mon avis, très, très délicat à distinguer entre politique internationale, politique étrangère et diplomatie, pour reprendre la classification de Bertrand Badie tout à l'heure. En fait, c'est la victoire intellectuelle, pour utiliser un terme que le président affectionne, de la France depuis 58, de dire on peut se retrouver dans une situation, ce qui est évident, ça c'est parfaitement assimilé par nos élites politiques, que les États-Unis n'engageront pas leur sécurité directe pour l'Europe. Hein. Et c'est pour ça que la France est dotée d'une dissuasion nucléaire depuis 1958. Si cette victoire intellectuelle doit se traduire par, au fond, une recherche de leadership, je pense que la manière, et notamment la manière de parler, quoi qu'on pense de Olaf Scholz, de parler aujourd'hui à l'Allemagne, est inadaptée, en fait. Donc il y a, à mon avis, un travail tout à fait important à faire. C'est la question, en fait, qu'on pourrait poser...
Pardonnez-moi, qu'est-ce que vous trouvez d'inadapté dans la façon dont Olaf Scholz parle?
C'est-à-dire de tordre le bras comme ça, aussi, je dirais, ouvertement à l'allié allemand, me semble peut-être contre-productif d'une certaine manière. Et je pense que la question qu'il faut se poser, c'est quelle sera l'attitude des Européens vis-à-vis de l'OTAN si les États-Unis de Donald Trump s'en éloignaient de manière très, très, très forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une autre manière de le dire, c'est qu'il faut se préparer intellectuellement à une possibilité de forme d'entente russo-américaine sur l'Europe ou au détriment de l'Europe en cas de réélection de Donald Trump. Alors, il y a des cordes de rappel très fortes dans le système américain, et je pense qu'il faut bien mesurer, en fait, le seuil sur lequel nous sommes. La deuxième chose, par rapport à l'usage du mot « troupe », de vouloir un peu rassurer l'opinion, je dirais oui et non, parce que ce qu'on est en train de constater aussi dans nos propres systèmes, et là il y a aussi l'enseignement tiré de la mobilisation israélienne, c'est qu'aujourd'hui un pays comme le nôtre, que ce soit dans des situations très, très difficiles en termes militaires, ou même très difficiles pour des questions environnementales, ne serait plus mobilisé. Et ce qui renvoie aussi à un autre aspect de la discussion sur la manière dont nous faisons société et dont nous ferions société dans un système extrêmement difficile.
Donc il ne faut pas forcément chercher à nous rassurer, mais plutôt à nous inquiéter?
Non, il faut chercher à se préparer. Il faut chercher à se préparer à des coups durs qui peuvent être de nature militaire, mais autres. Et je pense que c'est quelque chose, on n'a pas du tout de culture de l'exercice en France, et on l'a un peu plus en Allemagne, et je pense que c'est un vrai problème, et c'est probablement un sujet sur lequel des forces politiques pourraient se retrouver. Dernier point sur la méthode, et je reboucle, excusez-moi la facilité de langage avec ce que j'ai dit précédemment, moi je pense qu'on gagnerait en France peut-être, en matière internationale, à parler un peu moins et à travailler un peu plus.
Eh ben finalement, vous voyez que vous rejoignez un tout petit peu François Hollande, pas entièrement. Bertrand Badie.
Il n'a pas beaucoup travaillé.
Ah, ça, je vous laisse.
On pourrait, laissons François Hollande de côté, on pourrait aussi se référer à ce très beau papier qu'avait signé le ministre allemand de l'époque des Affaires étrangères, Westerwelle, qui disait « une bonne diplomatie, c'est une diplomatie modeste », c'est-à-dire une diplomatie qui n'est pas, comme disait un président africain à propos de la France, une diplomatie du mégaphone. Le mégaphone est un très mauvais instrument dans les chancelleries diplomatiques, n'est-ce pas? Et pourquoi là en particulier? on est d'accord autour de cette table pour dire que la fonction essentielle de ces propos répétés du président de la République, c'était d'envoyer des messages. Mais ces messages, j'en vois au moins quatre. Et le problème, c'est qu'ils sont contradictoires. Il y a un message en direction de Poutine et de la Russie qui est très fondé, qui consiste à dire « Vous ne m'impressionnez pas avec vos lignes rouges ». D'ailleurs, ces lignes rouges, c'est vous qui les définissez arbitrairement. Et donc, nous nous émancipons de cette menace.
Ça, c'est plutôt nécessaire, non ?
Comment ?
Ça, c'est plutôt nécessaire,
oui,
ce genre de message.
Oui, c'est très bien. Très bien. Moi, je signe ça, si vous voulez. Deuxième message, c'est en direction des États-Unis. Vous, en ce moment, vous êtes en train de piétiner sur le dossier ukrainien. Nous, on est dans une posture volontariste. Très bien aussi. Troisième message, très positif également, en direction de l'Ukraine, en disant, vous n'êtes pas seul. En ce moment, les Ukrainiens ont un moral un peu difficile, disons, on les rassure. Bon, puis il y avait un troisième message, et qui était peut-être le plus important, en tout cas le plus audible, qui est de dire, mes amis européens, il nous faut une défense commune. Et sous-entendu, l'initiateur et le leader, c'est moi. Et là, ça brouille tout. Pourquoi ça brouille tout ? D'abord parce que ça enclenche la colère, et pas seulement d'Olaf Scholz, hein. On l'a entendu aussi au Danemark, on l'a entendu en Espagne, on l'a entendu au Portugal, etc., etc. Donc, c'est l'effet contraire. C'est-à-dire, c'est facile de dire, mais écoutez, défense européenne est impossible, puisque justement, ce qu'il y a de plus visible en ce moment, c'est l'absence totale de consensus. S'il n'y a pas de consensus sur une politique étrangère, comment voulez-vous qu'il y ait une défense commune ? C'est effectivement absurde. Donc là, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que les trois premiers messages en direction des États-Unis, en direction de la Russie, en direction de l'Ukraine, sont annulés par ce quatrième message qui, portant l'ambiguïté et la division, montre que finalement, la dissuasion envoyée à Moscou, à Washington sous une toute autre forme, et les encouragements envoyés à Kiev ne fonctionnent pas.
Mais ça veut dire, Bertrand Badet, qu'il aurait fallu qu'Emmanuel Macron ne parle qu'au nom de la France en tant que puissance nucléaire, mais pas au nom des Européens ?
Moi, je pense que le mieux, c'est de ne pas parler, effectivement. C'est-à-dire, pas de mégaphone, ce sont des sujets trop graves. Vous savez, la diplomatie, c'est un art, et c'est un art qui n'a absolument rien à voir avec les effets de tribune. C'est un art très subtil, surtout quand le sujet est grave, et de ce point de vue, lorsqu'on envoie des messages qui se contredisent dans la manière dont ils sont reçus, eh ben, c'est les quatre qui écalent en vol. Eh ben, c'est un petit peu ce qui est en train de se produire.
La diplomatie, c'est un art. Alors, quel type d'artiste serait Emmanuel Macron en la matière, Magali Lafourcade?
Je crois que c'est un artiste qui essaye de retrouver la grammaire de la dissuasion en parlant de troupes, alors que ce ne serait pas tout à fait le terme adapté. Mais il risque là la désunion de l'Europe. On voit bien qu'en fait, le problème pour Olaf Scholz, c'est bien sûr que lui, il doit prôner la désescalade, parce qu'il est dans une culture stratégique qui est extrêmement différente, parce que c'est un régime parlementaire avec une coalition, et aussi parce que sa base électorale est très pacifique. Donc on voit qu'il faut arriver à ménager tout ça pour pouvoir expliquer pourquoi il y a une urgence actuellement. Et l'urgence, c'est comme l'a dit Thomas Gomard, le problème américain, c'est le Congrès qui ne vote pas les aides, c'est la victoire potentielle de Donald Trump, et puis c'est le fait que l'armée ukrainienne est en très mauvaise posture actuellement. Mais il y a quand même une chose qui est déroutante, c'est quand on évoque Munich en long, en large et en travers, c'est très gênant parce qu'en fait depuis, il s'est passé quand même beaucoup de choses et donc convoquer l'histoire comme ça, c'est un peu dangereux parce qu'on a quand même eu le fait nucléaire depuis tout ce temps et qu'on a vendu aux Français le fait que la dissuasion nucléaire, c'était une protection extrêmement importante et ça a marché du temps de la guerre froide. On a eu des tensions très très fortes qui ont été résolues comme ça. Donc là aussi, il y a un message qu'il faut un petit peu réexpliquer aux Français.
Thomas Gomard.
Non, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur les modalités d'intervention de la parole présidentielle qui est hyper concentrée. Alors si la référence c'est le général de Gaulle, il faut peut-être se rappeler que le général de Gaulle avait des ministres qui parlaient, qui faisaient leur travail. Et c'est à mon avis une partie du problème, c'est-à-dire que la confusion des messages qu'on évoquait précédemment s'explique aussi par le fait que, en la matière, il y a que la parole présidentielle, ça peut se comprendre sur un certain nombre de sujets, en particulier le nucléaire. Enfin, il y a de la place pour des ministres.
Et c'est pas le cas aujourd'hui.
À l'évidence, non.
Stéphane Séjourné, on commence quand même un petit peu à l'entendre, à l'identifier.
On peut regarder...
Le ministre des Affaires étrangères.
On peut regarder depuis 2017. Il faut, à mon avis aussi, qu'il y ait un espace beaucoup plus important pris par les ministres en charge de ces questions-là.
Brice Couturier.
Puisque vous parlez du général de Gaulle et qu'on l'invoque à tour de bras du côté de l'extrême droite en particulier pour essayer de nous expliquer pourquoi il faut absolument qu'on soit pacifiste face à l'agression, je voudrais juste citer le discours que faisait le général de Gaulle lors de la crise de Berlin en 1961, juste et très court, vous allez voir. « À un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser à redoubler sa pression et finalement faciliter, hâte son assaut. Au total, actuellement, les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droites et fermes. » Ben, je pense que c'est un message tout à fait adapté à la situation que nous vivons aujourd'hui et qu'on arrête de nous faire croire que de Gaulle était neutraliste et pacifiste. Il l'était nullement. Et il était un très bon allié de l'Alliance Atlantique tout en gardant l'autonomie stratégique de la France. C'est un très bon message pour aujourd'hui.
Eh bien, c'est sur ce message que nous allons nous quitter. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Brice Couturier, Thomas Gomard, Bertrand Badie et Magali Lafourcade. Émission que vous pouvez retrouver, comme à chaque fois, sur notre site franceculture.fr. Cette émission, elle a été préparée, comme chaque semaine, par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jean-Reynaud. À la prise de son, il y avait Anthony Thomasson.